Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous, comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. L'émission d'aujourd'hui va s'intéresser à l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, cette organisation juive médicale au départ que l'on connaît pour avoir caché et sauvé des enfants juifs pendant la Shoah. Qui en étaient les fondateurs? Quel était le but de cette organisation et surtout, quelle est son histoire? C'est cette histoire que raconte l'exposition qui est mise en place dans le cadre du centenaire de l'organisation que l'on peut voir au Musée d'Histoire de la Médecine. Une exposition intitulée « Une ONG avant l'heure » qui retrace le parcours de ces médecins juifs saisis par la pauvreté et les difficultés des populations juives de Russie. Ils ont mis sur pied des organes de soins, de prévention, des campagnes d'éducation, des centres de vacances, convaincus qu'il fallait, comme on disait au début du siècle, régénérer les juifs pour en faire un peuple fort, sain et bien éduqué. Avec nous pour en parler, Cathy Azan, historienne, qui a travaillé sur l'histoire de l'OSE et des enfants cachés et qui a mis en place cette exposition. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment commence l'histoire de l'OSE? Parce qu'on connaît effectivement, quand on s'est un peu intéressé à la question, le rôle de l'OSE dans les années de guerre, auprès des enfants. Mais comment commence l'histoire de l'OSE et à quel moment?
Oui. C'est vraiment une histoire fabuleuse et on n'arrête pas de découvrir des archives et en particulier dans les pays de l'Est. Parce que l'OSE est né à Saint-Pétersbourg en 1912 et que nous avons voulu dans cette exposition, on l'a intitulé « L'OSE, une ONG avant l'heure » parce que c'est une œuvre médico-sociale mise en place par des médecins juifs, témoins et acteurs d'un siècle tourmenté qui commence en Russie en 1912, qui va se poursuivre dans toute la zone de résidence des juifs, l'ex-zone de résidence, c'est-à-dire l'Ukraine, la Biélorussie, mais aussi tous les pays indépendants de l'Empire tsariste, c'est-à-dire la Pologne, la Lituanie, tous les pays baltes, la Roumanie. Et puis, elle n'en finit pas de grossir puisqu'on va la trouver après-guerre dans 33 pays différents. Et toujours avec une ligne de conduite toujours la même, c'est des médecins qui veulent sortir les juifs pauvres et les faire rentrer dans la modernité. Mais comment? Par le biais de l'hygiène. C'est soigner, guérir, prévenir. Et ça, ce que je trouve assez étonnant, c'est que ce fil rouge, on le trouve aussi bien dans les affiches en yiddish de 1925 en Pologne ou en Lituanie que dans les pays du Maghreb en 1947, par exemple avec la campagne des 3T. Les 3T, c'est contre la tuberculose, le trachome et la teigne. Et c'est ce qu'on appelait les maladies sociales, les maladies de la pauvreté, qu'à l'époque d'ailleurs, dans le mouvement hygiéniste du début du XXe siècle, on aurait appelé les maladies juives. Voilà, eux-mêmes parlaient de maladies juives.
Oui, parce qu'il faut remettre cette création de l'OSE dans le contexte de la vie juive en Russie, où il y avait donc 5 millions de juifs rassemblés dans des shtetls, où il y a eu des vagues de pogroms, des populations qui se paupérisaient très rapidement, et il y a eu un souhait de revivification, de préservation de ce monde juif.
Oui, et au fond, l'OSE ne fait que suivre un mouvement d'autonomie juive que l'on retrouve avec Lort, qui est sa grande sœur, qui est créée en 1880, avec tout ce mouvement d'instruction des juifs, des mouvements de l'ethnographie juive avec Hansky. Patronné par des mécènes comme les Günzburg. On est dans... Et puis bientôt le sionisme, on est aussi dans le sionisme, le bundisme, le sionisme. Tout toutes ces idéologies qui vont traverser cette fin du 19e siècle et ce début du 20e siècle. Et au fond, L'Osée, c'est une œuvre médico-sociale des médecins, mais il y avait dedans des bundistes, des sionistes, des libéraux qui étaient évidemment contre le tsar, mais qui voulaient œuvrer à... Vous avez employé le terme, la régénération du peuple juif par l'hygiène, avec des campagnes étonnantes. Il y a des affiches de l'époque où on voit les 10 commandements, alors sous forme comme des 10 paroles, les 10 commandements pour en yiddish. Alors, faut pas mettre le doigt dans son nez, faut pas cracher, il faut se laver les mains, il faut... des choses qu'on pourrait encore dire dans des tas d'endroits.
Oui, puis on sent effectivement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un souci de guérir, mais surtout un souci de prévenir, et de prévenir en veillant notamment à la jeunesse.
Oui, et c'est pour ça que c'est une œuvre médico-sociale, ce sont des médecins, tout au long de son histoire, mais aussi avec un focus sur l'enfance, s'occuper des enfants, alors très vite des enfants orphelins, parce que à cause des pogroms, à cause de la guerre civile, à cause de la guerre, etc. Mais aussi parce qu'il s'agit de prévenir. Et quand l'Osée vient en France en 1934, c'est aussi vers les enfants de juifs immigrés qu'elle se tourne. Parce que c'est aussi par les enfants qu'elle peut atteindre les parents. Et qu'elle va très vite réfléchir à... comment je vais vous dire ? Elle est là pour les populations qui ont besoin de soins et pour la réparation des fractures identitaires. C'est très important pour l'Osée, retrouver son identité. C'est pour ça qu'elle deviendra une organisation reconnue d'utilité publique dans les années 50 en France et qu'elle va travailler avec les pouvoirs publics. Parce qu'elle a acquis un savoir-faire qui date de la Russie, de 1912.
Et puis alors peut-être il faut mentionner aussi le moyen que vous avez choisi pour mettre en valeur cette histoire de l'Osée. Il y a beaucoup de photos, beaucoup d'affiches, et notamment des photos où on voit des enfants sur des chaises longues, des photos où on voit des rangées de berceaux, des rangées de landaux, on voit aussi des jeunes juifs dans le monde agricole avec des fourches. Enfin, voilà, on voit vraiment tout un monde projeté dans l'hygiénisme, dans le plein air, dans toutes ces idéologies de l'époque.
Oui, je voudrais dire que cette exposition a été faite donc par moi-même en tant qu'historienne et puis toute mon équipe d'archives et histoire, et en particulier Dominique Rothermund. Mais surtout, on a choisi un muséographe et une scénographe avec Catherine Mariette et Jean-Louis Lebovitch qui s'expriment avec le photomontage. Et le photomontage, c'est très intéressant parce qu'il s'agit d'un moyen d'expression des artistes russes des années 20 pour expliquer des concepts, pour expliquer des idées. Ils mettent en scène, il y a dans toute cette exposition pas seulement une juxtaposition de photos d'époque, c'est une mise en scène à partir de photos. Les photos ont été détourées et quand vous vous placez devant chacun des panneaux, il faut rester un bout de temps et rentrer dans la magie de la scénographie de chaque panneau. C'est-à-dire que chaque panneau raconte une histoire. Et ça, c'est avec cette technique du photomontage. Et c'est pas un hasard si on retourne à l'histoire, parce que le photomontage date des années 20 en Russie. C'est d'ailleurs une spécialité des artistes russes, juifs et non-juifs, et qui va être reprise par tous les graphistes de l'Europe entière, dans les années 20 et 30 pour les affiches de cinéma. Donc c'est vraiment un moyen d'expression tout à fait original.
Alors, vous disiez tout à l'heure, Cathy Azan, effectivement, qu'il y avait parmi ces fondateurs de l'OSE des bundistes, des sionistes, des internationalistes, des hygiénistes. Bon, il y avait tout un tas de courants politiques. Et pourtant, on souligne dans l'exposition le fait que c'était une organisation apolitique.
Bah oui, justement. C'est parce que il fallait rassembler tout ce que le judaïsme a produit de mouvements idéologiques, mais c'est d'abord des médecins qui veulent soigner, prévenir, guérir, et qui ont une mission. Et ce sont quoi ? Ce sont des médecins juifs et universalistes. Et c'est ça qui est... c'est des médecins éclairés, qu'ils soient russes, qu'il soit tunisien, marocain ou encore alsacien pendant la guerre en France, c'est des gens qui croyaient en une mission de santé publique. Voilà, c'est de la santé publique, c'est-à-dire venir au secours des populations défavorisées par le biais de l'hygiène et de l'éducation. Voilà. Et... Il y a des très beaux personnages. Il y a le médecin qui s'appelait Chabad, le bon docteur Chabad, qui était à Vilnius, qui va créer la revue Volksgesundheit, la santé pour le peuple, et qui va continuer cette revue par des conférences médicales dans le ghetto de Vilnius. Et puis, il y a Valentine Kremer, il y a aussi des très beaux portraits de femmes. Valentine Kremer, qui s'est engagée aux côtés de l'OSE à 20 ans en Russie, qui va la suivre à Paris, qui va être le médecin qui va faire les premiers rapports sur les populations juives des Mellahs du Maroc et de Tunisie. Voilà, et qui suit l'OSE, Eugène Minkowski, lui aussi, médecin russe qui va croiser l'OSE en France, Irène Opolon, Joseph Kabaker, Léon Moati, enfin, vraiment toute une galerie de très beaux portraits de médecins qui ont tous je le répète parce que je crois que tous se retrouvent là-dessus. Ils sont des médecins juifs et universalistes. Voilà.
Alors peut-être on peut évoquer, on a commencé à l'évoquer, la question de la Première Guerre mondiale, avec des centaines de milliers de juifs qui sont réfugiés, qui sont victimes de pogroms, parce qu'ils sont perçus comme des espions, des enfants qui restent seuls, 300 000 orphelins. Et donc déjà... L'OSE qui est confronté à ces questions de guerre, à ces questions des réfugiés, à ces questions des enfants orphelins, et qui se prépare en quelque sorte à mettre en place ce qu'elle met en place dans les années 40. C'est-à-dire que finalement, si l'OSE a pu être aussi efficace dans les années 40, pendant la guerre, on peut se dire que c'est parce qu'ils avaient déjà aussi mis en place des choses et eu cette expérience de la guerre et de ses retombées sur les populations civiles.
Oui, évidemment, c'est son savoir-faire de ces années de 1912... Vous savez, juste au moment de la Première Guerre mondiale, les Juifs ont vraiment été transbahutés d'une région à l'autre parce qu'ils étaient considérés par les espions le long du front entre les Allemands et les Russes. Et là, il y a eu des déplacements de population qui ont tourné en pogrom. Et l'OSE, elle n'est pas la seule, bien évidemment, avec d'autres organisations, ont créé des colonnes mobiles d'infirmiers et de médecins qui accompagnaient ces populations déplacées, meurtries. Donc, elle a effectivement un savoir-faire qui va se continuer... Parce qu'il y a eu tous les pogroms de la guerre civile. Lorsqu'il y avait les armées blanches qui qui gagnaient, c'était les Juifs qui trinquaient. Quand les bolcheviks arrivaient, c'est les Juifs qui trinquaient. En Ukraine, quand il y avait les bandes de soldats et de cosaques, c'est toujours les Juifs qui trinquaient. C'était devenu une espèce de population complètement nomade qui ne savait plus où aller. Et au fond, les secours qu'elle va apporter vont lui montrer comment il fallait s'organiser face à des populations en détresse. Après, comment faut-il s'organiser face à des réfugiés ? Et toutes les populations réfugiées, par exemple, tous les Polonais qui vont partir à Berlin. Parce qu'elle aussi va devenir une association nomade. De Russie, elle part en 1923 à Berlin. Elle y reste 10 ans, de 23 à 33. En 33, elle met un bureau à Genève et puis un bureau à Paris. Elle fonde une branche, la branche française, et arrive la guerre. Et au moment de la guerre, elle va devenir une organisation nomade qui va suivre la traque des Juifs en France, c'est-à-dire qu'elle est dans la région parisienne, et puis après elle va descendre de l'autre côté de la ligne de débarcation, dans le sud, à Montpellier. Puis lorsque les Allemands arrivent en novembre 1942, elle va vers le centre de la France, comme la majorité des Juifs de France. Elle va à Limoges, Vic-sur-Serre et en dernier, à Chambéry. Au fond, elle suit la traque des Juifs et c'est pour ça qu'elle va être l'une des grandes organisations, encore une fois, pas la seule. Les éclaireurs israélites, le mouvement de la jeunesse sioniste vont œuvrer au sauvetage des enfants, mais vu son savoir-faire, elle sera l'une des principales à pouvoir sauver des enfants, ouvrir des maisons d'enfants, mettre sur pied un circuit clandestin, le circuit Garel.
Oui, d'ailleurs, il faut évoquer ces maisons d'enfants qui naissent à Montmorency pour les enfants réfugiés allemands au début de la guerre, après la nuit de cristal. Et puis, Joseph Weil qui organise l'aide dans le camp de Gurs et de Rivesaltes, qui travaille donc à l'aide des populations qui sont dans ce camp. André Salomon qui sort les enfants des camps. À Paris, Eugène Minkowski, vous l'avez évoqué, qui met en place le comité AMLO, avec le comité AMLO, un circuit de sauvetage. Donc voilà, il faut évoquer, même si c'est la part qu'on connaît la mieux, c'est la part aussi la plus belle de l'œuvre de Lozé.
Oui, c'est en tout cas la part française. Et voyez, vous avez indiqué, vous avez employé des noms comme Joseph Weil et André Salomon. Et là, on voit comment Lozé va se doter d'un nouveau personnel politique, c'est-à-dire que le personnel des Juifs étrangers va être obligé de s'exiler vers Genève, va partir, et arrive des gens qui viennent d'Alsace, c'est des Juifs alsaciens, rompus au travail social par le biais des éclaireurs israélites. Et donc, c'est toute une pépinière d'hommes et de femmes nouveaux qui connaissent et qui ont compris le danger nazi et qui vont œuvrer au sauvetage des enfants. Et vous voyez aussi que, là encore, c'est d'abord des médecins. Joseph Weil, un médecin. André Salomon, non, c'est tout le sauvetage des enfants sortis des camps d'internement et placés dans les maisons. Donc effectivement, un renouvellement du personnel politique qui fait aussi sa force et qui fait qu'elle a pu sauver, en tout cas, elle a aidé et sauvé 5000 enfants, mais elle a directement sauvé 2500 enfants. Voilà.
Alors on peut évoquer, peut-être avant de finir cette émission, il faut évoquer d'autres volets du travail de Lozé. Alors outre bien sûr le travail qu'elle a effectué après la guerre auprès des orphelins dans les maisons d'enfants, des actions qui sont évoquées par exemple dans les livres de Robert Bobert, mais il faut évoquer effectivement le développement de l'OSÉ en Afrique du Nord, vous en avez dit quelques mots, et puis le fait que l'OSÉ se développe effectivement dans de nombreux pays et qu'elle existe encore aujourd'hui.
Oui, elle existe encore aujourd'hui et justement elle fête son centenaire, mais elle est forte de 22 structures différentes. Elle a 600 salariés, donc c'est vraiment une œuvre d'assistance de la communauté juive ouverte vers l'extérieur puisqu'elle travaille avec les juges pour enfants. Là encore, c'est tout son savoir-faire qu'elle a accumulé depuis un siècle qui fait qu'elle va s'intéresser à de nouvelles solidarités comme la gériatrie, le handicap et les enfants en difficulté. Mais effectivement, il faut revenir à le fil rouge, c'est-à-dire sauver des enfants pendant la guerre, mais l'action de sauvetage ne se limite pas à la guerre, parce qu'il faut s'occuper des orphelins. Et c'est pour ça qu'elle va ouvrir, comme d'autres organisations encore, la Commission centrale de l'enfance, ou les éclaireurs israélites, ou l'OPEJ, des maisons d'enfants. Elle en ouvre 25, c'est beaucoup. C'est beaucoup, et ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'orphelins après la guerre. Il faut les éduquer avec une grande liberté, mais en même temps leur donner la conscience d'être juif et d'être fier d'être juif. Parce que ce n'est pas si évident que ça dans cette immédiate après-guerre. Et on vient de publier le livre sur les maisons d'enfants d'après-guerre et je me rends bien compte combien c'était la tâche des dirigeants de l'OSÉ, laisser les enfants libres de choisir leur judaïsme, mais surtout quand même de leur montrer qu'est-ce que c'est qu'être juif. Voilà. Et c'était pas évident dans cette immédiate après-guerre. Et puis, je voudrais dire un mot d'une grande dame de l'OSÉ, Vivette Samuel, qui était directrice du service social, puis directrice générale de l'OSÉ, et qui va participer à l'élaboration des textes législatifs sur la protection de l'enfance dans les années 70. Donc, là encore, pour montrer que c'est grâce à tout son savoir-faire qu'elle va pouvoir peser sur l'organisation de la protection de l'enfance, ce qui explique aussi tout son travail maintenant dans son service de placement d'enfants et des 4 maisons d'enfants qui existent, avec des enfants qui sont momentanément sortis de leur milieu familial. Voilà, elle a encore plein de projets, donc c'est une vieille dame, mais qui a 100 ans d'avenir, puisque c'est le slogan qu'elle s'est donné pour son centenaire.
Alors peut-être très rapidement, Cathy Hazan, vous pouvez nous donner quelques éléments de ce qui sera le centenaire de... Peut-être il y a quelques colloques ou quelques événements autour de ces 100 ans.
Oui, alors, il y a déjà eu une exposition sur le sauvetage des enfants au Bernardin qui va se prolonger fin septembre, début octobre aux Archives nationales à l'hôtel de Soubise. Il va y avoir effectivement un colloque au mois de juin sur l'histoire de l'OSÉ. Et puis, quelque chose qui nous tient à cœur, qui va être le 1er juillet, un grand rassemblement sur la pelouse de Reuilly de toutes les générations de l'OSÉ, une grande fête, des grandes, grandes retrouvailles.
Merci encore. Je rappelle, Cathy Hazan, que vous avez donc organisé cette exposition qu'on peut voir à l'École de médecine à Paris, consacrée aux 100 ans de l'OSÉ, du 6 au 27 mars. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Deux adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet, www.radio-rcj.info, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.